Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Comme je disais, ça fait un mois que j'ai prêché. La dernière fois que j'ai prêché, vous rappelez-vous qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez écouté, super. On était autour d'une table. De quoi qu'on parlait déjà, ce message-là? Vous en rappelez-vous un petit peu? On s'était mis en carré ici. L'hospitalité. Puis, le temps des fêtes, ça a été un moment pour ça. Peut-être vous avez reçu, vous avez été chez des gens dans la famille. On a vu que l'hospitalité, c'était d'accueillir l'autre dans notre amitié. Ça veut pas dire de recevoir chez soi, ça veut dire de laisser rentrer les gens dans notre bulle. Puis, dans ce message-là, on a vu qu'un des pièges qui fait que l'Église moderne aujourd'hui, elle fait pas beaucoup de disciples, c'est qu'on laisse plus rentrer l'étranger dans notre bulle. On a notre petite clique, puis on socialise. Beaucoup. On socialise avec notre pouce sur nos cellulaires, on va sur les réseaux sociaux, mais on a perdu l'art de se recevoir les uns les autres et de se voisiner, si on peut dire, puis laisser rentrer un étranger dans notre bulle. Et donc, la série que je suis en train de faire, c'est une série sur la formation de disciples. Puis la formation de disciples, c'est une espèce en voie de disparition, justement parce qu'on est tous très individualistes, puis on vit chacun nos petites vies. Et donc, on n'a pas cette responsabilité-là d'amener quelqu'un d'autre avec nous dans un continuum de formation de disciples. Après ce message-là, on a eu notre événement de Noël où on a invité nos amis, nos familles, puis l'Évangile a été proclamé encore une fois. Très belle réponse de l'Église. On a eu Pasteur Richard qui est venu nous parler le message avant Noël sur la grâce de Dieu. Ensuite, on a eu Pasteur Patrice qui nous a prêché deux messages sur la peur, la crainte et le courage au travers de nos craintes et nos peurs. Puis dans le dernier message, justement, il nous disait qu'il y avait 4 points à méditer. On pouvait avoir du courage parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu a un plan pour nos vies, parce qu'il n'y a rien qui va nous séparer de son amour qui a été manifesté en Jésus, puis parce que Dieu, il nous fortifie. Ça, c'était comme 4 points qu'on pouvait mettre dans notre pipe, fumer ça. Puis réaliser que le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est d'avancer malgré toutes nos craintes. C'est d'avancer puis dire, Dieu est avec moi, Dieu a un plan, Dieu ne me séparera pas de son amour, puis Dieu me fortifie. Ces 4 choses que je viens de dire touchent directement à notre identité. Pourquoi est-ce qu'on peut être sûr que Dieu est avec nous? Pourquoi on peut être sûr que Dieu a un plan pour nos vies, que rien va nous séparer de son amour, puis que Dieu nous fortifie? Bien, c'est à cause de qui on est. C'est à cause de notre identité. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est ça. C'est « Qu'est-ce que l'homme? » Ma série, c'est une série qui se veut une critique du christianisme moderne. Donc, c'est certain que je vais voir où c'est que le bas blesse, puis c'est de ça que je veux parler. Et je pense qu'on a un gros problème en 2019 sur notre identité. Puis je me suis dit, crime, c'est la meilleure façon de commencer l'année, c'est de parler justement qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'homme? Ben David, dans le psaume 8, il dit au verset 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? » Et c'est là que j'ai pris le titre de mon message. Qu'est-ce que l'homme? Petit grain de poussière dans l'univers. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence ou de beauté. David, il dit, je regarde le ciel, je vois tout ce qui est beau, puis après ça, je vois l'homme. Puis peut-être que David, il pensait à tout ce qu'il y a de beau dans l'homme, mais aussi qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans l'homme aussi. Puis il se disait, qu'est-ce qui est l'homme quand je vois la grandeur des cieux qui ne peuvent pas contenir notre Créateur? Quand je contemple tout ça, qu'est-ce que l'homme? Puis il dit, il donne une réponse après sa question, que l'homme est un petit peu inférieur à Dieu, tellement Dieu l'a couvert de beauté et de gloire. Donc, on est quelque chose. On est quelque chose. On est quelqu'un pour Dieu. À cause de qui on est, Dieu nous a couronnés de gloire et de beauté. Et on va voir 5 éléments aujourd'hui qui définissent qui on est. J'expliquerai ce panneau de signalisation un peu plus tard dans mon message. L'homme. Qu'est-ce que l'homme? J'ai sorti 5 réponses. Elles ne sont pas complètes, mais je pense que c'est les principales. Premièrement, l'homme, ça veut dire quoi d'être un homme? Ça veut dire qu'on est fait à l'image du Créateur. 2, on est capable des pires choses. 3, on est quelqu'un pour qui Christ est mort. Un humain, c'est quelqu'un qui peut accepter le pardon ou qui est pardonnable. Puis 5, qui peut progresser dans sa ressemblance à Dieu. On va aller voir dans le dictionnaire Larousse qu'est-ce que veut dire l'identité. On va parler donc de l'identité. C'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité. Une autre définition qui ressemble à identité, mais c'est identifier. C'est préciser la nature de quelque chose, son type, sa catégorie, pouvoir dire ce que c'est, par exemple, identifier une plante. Découvrir l'origine d'un objet, son appartenance, grâce à une marque, un signe caractéristique. Par exemple, vous avez un numéro d'identification unique dans votre voiture qu'on appelle le VIN, Vehicle Identification Number. Puis ça, on fait juste aller avec ce numéro-là, on sait quelle est la marque de votre auto, quelle est l'année de sa construction, on connaît toutes les propriétés, son origine, son fabricant, sa marque, etc. C'est aussi, j'ai fait ça ce matin, Steph, elle se demandait comment ça se fait que j'avais... Comme il est où? Hey, l'image n'a même pas sorti. Juliane, clique sur l'image. Ah. Le voyez-vous, le crayon? Ah oui, il est là. Aïe, aïe, on dirait que c'était comme une démarcation ici. OK, je sais pas quand vous étiez jeune, comment on identifiait vos crayons, mais ma mère, elle avait trouvé l'idée de couper avec un couteau le crayon. Y en a-tu que leur maman faisait ça? Parce que tu dis, identifier un crayon juste en écrivant dessus, c'était pas assez. Quelqu'un pouvait l'effacer puis écrire son nom. Fait que maman, ce qu'elle faisait, elle prenait un couteau, elle coupait le bois, puis elle gravait avec un autre crayon mes initiales. Fait que je l'ai fait ça ce matin. Fait que Steph, elle a dit, comment ça fait que le couteau est sorti? Ben, j'ai dit, j'avais du bois à couper. J'ai dit, tu comprendras dans mon message. Aussi, quand notre fils, par exemple, est parti en appartement pour la première fois, on y a aidé à faire sa première épicerie, hein. Fait qu'on a amené un set de collants, tu sais. Parce qu'on savait que s'en allait en appartement avec d'autres, on voulait pas que les autres mangent sa bouffe. Donc, on a collé plein de collants, marqué Nathaniel dessus. Tu sais, c'est comme tu vois que c'est les papa et maman poule, là, qui disent, oh. C'était tellement drôle, les collants qui ont bien ri de Nat, tu sais, quand ils ont dit, c'est pourquoi tu mets des collants, tu sais. On aimait bien notre fils, on voulait que sa bouffe reste à lui, tu sais. OK. Donner une marque d'appartenance. Identifier. Les crayons à petite école, non, sur un examen. Donc, c'est ton évaluation, c'est ton examen, c'est ton évaluation. Tu marquais ton nom parce que ça te revenait en propre. Le psaume 100, verset 3, nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. » Et en tant qu'humain, on lui appartient, le Créateur, et on porte en lui sa marque, son initiale, si on pourrait dire. On porte l'image de Dieu. Alors, mon premier point que je veux parler ce matin, c'est l'image de Dieu. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ici, dans ce passage-là, c'est une des premières allusions dans la Bible à la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit qui disent ensemble « Il dit au singulier, faisons au pluriel. Hein? On voit même dans la grammaire là, originale, on voit ça comme ça. C'est pour ça que les traducteurs ont été obligés de le décrire comme Dieu dit au singulier, faisons l'homme au pluriel, le nous pluriel, parce que Dieu est un être de relation, de volonté, d'émotion, d'intelligence, Et il nous crée. Donc, s'il est capable d'aimer, c'est parce que quelqu'un a aimé. Si quelqu'un a aimé, c'est parce que la Trinité a de tout temps existé. Et il s'aime entre lui-même, entre les trois personnes de la Trinité. Et il nous crée donc à son image et à sa ressemblance. Puis c'est une décision qu'il prend de nous créer, comme lui, des êtres de relation. Et donc, il va falloir que si on cherche qui on est, c'est quoi notre identité, il va falloir se définir en fonction de nos relations, celles avec le Créateur et celles avec les autres. Si je serais élevé par des porcs, j'aurais grandi avec des porcs, j'aurais jamais vu un humain de ma vie, je serais pas capable de comprendre qui je suis en tant qu'homme, parce que pour pouvoir savoir qui je suis en tant qu'homme, j'ai besoin de relations pour me définir. Ma relation avec mon Créateur, puis la relation avec les autres hommes. Les chrétiens orthodoxes, c'est quand même intéressant, ils étaient inspirés par des écrits des chrétiens de l'histoire de l'Église, mais ils ont dit quelque chose que j'ai trouvé scripturaire, mais je ne sais pas si on peut le trouver dans ce texte-là. Mais ils disent, eux autres, ils interprètent ce passage-là à notre image comme étant d'abord un don. Donc, l'image que Dieu a donnée, c'est un don. Et la ressemblance, c'est un but à atteindre. C'est intéressant, on trouve ça partout dans les enseignements de la Bible et surtout dans le Nouveau Testament, qu'on a un but, c'est celui de ressembler à notre Créateur. C'est quand même intéressant. Dieu place en nous son image et dans notre vie, nous donne le but de lui ressembler. Intéressant. Un don que chacun a reçu et c'est pour ça que vous avez de la valeur aux yeux de votre Créateur, c'est que Dieu vous a créé en sa propre image, il vous a créé un petit peu inférieur à Dieu, il a mis en vous son image et il vous a donné un but, celui de lui retourner son image. Ça, c'est intéressant. Donc, partout dans le Nouveau Testament, on voit cette idée-là que, Paul, il va dire, « Je vous ai enseigné matin et soir pour vous présenter devant Dieu comme une vierge pure, comme qui se prépare pour son mariage. » Il compare ça à un mariage, puis il dit, « Pour vous préparer pur et sans tâche pour vous présenter à votre époux Jésus-Christ. » Plein d'exemples. Mais on va en lire une. C'est, à un moment donné, c'est des gens qui viennent essayer de pogner Jésus à propos de l'argent, justement. Et c'est dans Matthieu 22, de qui est l'effigie? Ils envoyèrent, au verset 16, auprès de lui auprès de lui leurs disciples et les Hérodiens, donc qui ont comme jumelé des différentes sectes, dont les Hérodiens qui étaient pro-Hérode, pro-impôt, qui dirent, « Maître, on sait que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, tu regardes pas à l'apparence des hommes. Dis donc ce qu'il t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Et Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? » Prochaine acétate. Yes. « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Dans ce passage-là, on essaye de dire, si Jésus dit qu'il faut payer l'impôt à César, il va trahir tous les Juifs qui sentent que c'est un vol de se faire charger de l'impôt par un occupant qui les domine. S'il dit que c'est pas bon de le faire, il va passer pour l'Empire romain comme un traître qui encourage le peuple à la désobéissance. Il est coincé. Alors, il répond avec une question. Et la question qu'il pose, c'est de qui, qu'est-ce qui porte l'effigie? Moi, je vous pose la question, c'est quoi qui porte l'effigie? Et l'inscription de César. C'est quoi dans cette histoire-là? Le denier. Alors Jésus dit, rendez-lui. Maintenant, je pose la question à vous, pas à ceux qui sont dans le texte ici, mais à vous. Qu'est-ce qui porte l'effigie et l'inscription de Dieu? Nous. Alors, rendez-lui. Comprenez-vous? On porte l'image du Créateur. Et on est appelé à refléter cette image-là de retour à ce Créateur-là en donnant à Dieu cette image-là. Pourquoi le message ce matin, pourquoi la vérité au sujet de notre identité est importante? C'est important parce que si on ne comprend pas bien ce que la Bible dit concernant notre identité, on va essayer de se forger une identité. On va essayer de devenir quelqu'un. Dans la Bible, notre identité, il est clair que c'est pas quelque chose qu'on forge ou qu'on façonne, c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on trouve. Hein? Et l'image de Dieu nous a été donnée et c'est à nous de trouver en nous l'image du Créateur. Et donc, moi, en tant que personne, je n'augmente pas ma valeur par les choses que je fais ou les choses que je fais pas. J'ai une valeur propre qui m'a été donnée parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Donc, j'ai besoin de découvrir cette valeur-là. Le modèle du monde. Pourquoi est-ce que le modèle du monde ne fonctionne pas? Parce que le modèle qu'on retrouve dans le monde, c'est « forge-toi une identité ». Quand tu es né, tu valais rien. Plus tu grandis, plus que tu gagnes des sous, plus que tu deviens connu, plus que tu es capable de contribuer à la société, etc., plus tu augmentes en valeur. Tu forges ta valeur. Le problème, il y en a beaucoup de problèmes avec ça. Dans Genèse 11, au verset 4, c'est une belle expression qui représente le monde. « Faisons-nous un nom. » Hein? Genèse 11, 4, « Faisons-nous un nom. » On va se bâtir une tour, puis là, il n'y a rien qui va nous arriver, puis on va tirer notre change. On va être gagnant au change. Donc, une personne qui ne comprend pas son identité dans la Bible, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va définir elle-même son origine. Elle va dire, oh, « ben moi, je suis pas sûr que c'est Dieu qui nous a créés. » Elle va prendre en main sa destinée. Oh, après, on meurt. On va être enterré, c'est fini là. Puis qu'est-ce qu'elle va faire entre le début et la fin, entre son origine et sa destinée? Elle va se donner des buts. Elle va se créer un but qui vaut la peine de vivre pour. Mais c'est pas la vie du croyant. Parce que le croyant, il a découvert qu'il y avait une origine, il y a une destinée, puis entre les deux, il y a un but pour lequel il est sur la terre. Donc, c'est important. Le modèle du monde ne fonctionne pas parce que le monde se forge des buts qu'il juge significatifs pour essayer, tenter de donner un sens. On n'a tellement pas de buts, tellement pas d'origine, tellement pas de destinée que même on enseigne aux enfants qu'ils peuvent choisir leur genre. Genre, choisis qui tu veux être, choisis le but de ta vie, choisis si t'es un gars, si t'es une fille, si t'es un EZ. Parce que justement, on n'a pas saisi qu'on avait une origine, une destinée et un but pour nos vies. Donc, pourquoi est-ce que ça marche pas? C'est parce que quand on s'identifie pas à ce que Dieu dit, on va essayer de s'identifier par les normes et les standards du monde et de sa culture. Prenons quelques exemples. J'essaie de voir si je suis quelqu'un, qu'est-ce qui me démarque, qu'est-ce qui me rend unique du reste du monde ou qui m'identifie à un groupe de personnes. On va dire, par exemple, la beauté physique. On va regarder des films, la fille est super belle, puis là, on va dire, ah, me semble, il faudrait que je m'entraîne. Puis là, dans la fille, qu'est-ce qu'elle dit? C'est ça le summum. Je veux dire, ça fait tourner les têtes, fait que c'est ça qu'il faut que je fasse. L'homme, il voit des gars musclés là aussi à la TV, puis là, il dit, moi aussi, il faut que je m'entraîne. Tu sais. La beauté physique. Ou à être une personne qui réussit financièrement. On a des amis qui ont réussi, donc il faut qu'on réussisse nous autres aussi. On a un standing à avoir pour montrer que, tu sais, hey, les gens, ils vont dire, pas si pire que ça. Puis en plus, il a même pas fait des études supérieures. Puis regarde-les, le crime, il s'en sort bien. Il est quelqu'un. Sûrement, il doit avoir réussi quelque chose. Il est quelqu'un. La marque du véhicule qu'on possède, les vêtements qu'on a, le groupe religieux auquel on appartient, donc un sentiment de vouloir appartenir socialement à un groupe de personnes. Les services, une personne qui est serviable, mais beaucoup serviable, parce qu'elle veut avoir un amour qui lui sera rendu en retour, qui va lui dire, « C'est-tu quoi? T'es pas rien, toi! » Tu comptes pour nous. Puis là, les gens sont fins à l'extrême, mais dans le fond, là, en dedans, là, ils se disent, est-ce que je vaux la peine? Si je suis vraiment moi, tu vas m'aimer quand même. Et donc, on en met autour, tout ça. Être utile pour la société. Une mère qui élève ses enfants, puis qui ça donne un sens à sa vie. à l'amour qu'elle recevra de cet enfant-là, lui communiquera qu'au moins elle est importante, au moins pour quelqu'un. Quelqu'un tentera de se démarquer du reste d'un groupe en étant un top performeur. Quelqu'un qui veut toujours surpasser la moyenne des gens. Être reconnu comme étant celui qui fait la différence, la référence. Une personne perfectionniste. Combien de A cette personne-là a-t-elle sur son bulletin? Ça, c'est à l'école primaire. Je sais pas si c'est encore des A. C'est encore des lettres alphabétiques au primaire? Il y en a qui ont eu des enfants au primaire. C'est encore des... Non? C'est plus des lettres. Le problème avec ces manières de s'identifier, c'est qu'on essaie de tirer notre épingle du jeu parce qu'on ne sait pas quelle est notre valeur propre. Et donc, on a une valeur qui varie selon le système. Ça nous fait tenir dans une position instable face à nos pères et face à notre Créateur. Par exemple, Gilles en a parlé ce matin durant l'offrande, placer notre valeur dans nos richesses. Proverbe 23:5 dit: veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Donc, le riche qui met son espoir dans ses richesses, qu'est-ce qui arrive? Il regarde quelque chose qui va disparaître comme un aigle disparaît dans les cieux. Et donc, une personne qui en a, Ben nous partageait ça à l'offrande la semaine passée, il disait que le travail rassasiait l'homme, puis il dormait bien, mais que le rassasiement du riche l'empêche de dormir. J'ai médité sur ce verset-là que Ben nous a partagé dimanche passé. Si tu me... En tout cas, je suis riche. Ben, est-ce que la richesse pour les cieux, ça marche aussi? Ça peut-tu compter dedans? Mon frère, il demande si c'est ça qui m'empêche de dormir. Vous ne saviez pas, hein? J'ai des gros bas de laine. Donc, le rassasiement du riche l'empêche de dormir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a faim, il a encore faim. Il a encore faim pour plus. J'ai remarqué aussi que quand on accumule nos biens, ça devient de plus en plus difficile de faire ce que Dieu nous demande parce qu'on va toujours, on n'acceptera jamais d'aller en deçà de ce qu'on a reçu jusqu'à présent. OK? Ça veut dire ça que si on prend pas tout ce qui est à nous puis on dit pas à Dieu, hey Dieu, c'est à toi, il n'y a pas la possibilité de nous dire, hey, c'est quoi? Vends tout ça, suis-moi, on n'aura pas besoin de ça. On va sentir qu'une partie de nous autres, le jeune homme riche qui est allé voir Jésus, hein? Tu nous partageais ça? Il y a une partie de son cœur qui est arrachée. Je m'aperçois dans Psaume 62:11 que quand tes richesses s'augmentent, n'y ajoute pas ton cœur. Quand je suis devenu pasteur, ma compagnie agrandissait. Puis une des décisions que j'ai prises à ce moment-là, c'est si je vis des revenus de ça, je ne vais pas accepter quand Dieu va me demander de pasteur. Fait que je me suis payé un salaire de secrétaire dans ce temps-là. Pour justement dire, un jour, quand va arriver cette... Je ne mettrai pas mes œuvres dans ce panier. La richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol dans les cieux. L'homme aura peur de perdre et voudra en avoir plus. Ça va l'empêcher de dormir. Il ne sera pas capable de dormir. Jésus a dit, pour dire que c'est une des choses qui empêche les gens d'être des disciples, il appelle ça l'invasion des convoitises et le désir des richesses. Il l'appelle une invasion. C'est quoi une invasion? Une invasion, c'est une armée qui débarque. Puis ça vient faire la guerre à l'âme, ça, ces convoitises-là. Et donc, non seulement ça atteint notre identité parce qu'on pense qu'on est quelqu'un parce qu'on possède, mais en plus de ça, ça nous empêche de découvrir notre véritable identité en devenant un disciple et un serviteur de Jésus. Une personne qui met son identité dans ses richesses, elle va se soucier, elle va être inquiète de ce qu'elle sera vêtue en temps de trouble, en temps de disette. Jésus a dit, hey, c'est les païens qui s'inquiètent de ces choses. Vous, votre Père, il sait, que vous en avez besoin. Qu'est-ce que Jésus nous dit par ça? Il nous dit qu'on a une identité, c'est celle d'être un fils. Puis pour son fils, pour sa fille, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne les vêtements, on lui donne la nourriture, il va pas en manquer. Mais celui qui met son identité dans ses richesses, il a peur d'en manquer, il se pose la question comment il va être vêtu. OK, une autre personne place son identité dans le respect qu'on lui procure, qu'on lui apporte. Ça, c'est le fun. C'est le fun quand les gens ils nous respectent, quand les gens sont gentils avec nous, qu'ils nous montrent qu'on est digne d'être aimé, tout ça. Mais qu'est-ce qui va arriver le jour où on va te méprisé, rejeté. Comment tu vas résister au rejet et au mépris? Tu as placé ton identité dans le fait que les gens disaient du bien de toi. Tu vas-tu aussi placer ton identité dans ce que les gens disent mal de toi? Tu peux pas faire ça, sinon ton image de toi-même, elle va diminuer par le mépris. Quand Jésus nous dit de pas placer nos œufs dans les paniers d'en bas, quand il nous dit de pas placer nos choses, notre cœur dans les choses d'en bas, là, c'est pas pour nous priver, c'est pour nous protéger. Si ton cœur est placé dans le respect qu'on te donne, Dieu dit, ça va te détruire. Ça va détruire ton identité. Fait que, vis donc de ce que Dieu dit de toi, dans ton identité. Ça, c'est, Dieu, là, il changera pas d'idée te concernant. Tu vas toujours être son enfant bien-aimé qu'il aime, tu sais. Quelqu'un qui met son identité dans ses enfants, tu sais, la personne qui dit, au moins, je suis important pour quelqu'un. Comment réagiras-tu si ton enfant meurt? Seras-tu un peu moins toi? Et si ton enfant s'éloignait dans des voies du Seigneur, continuerais-tu à donner ton image à Dieu? Quelle serait ton identité à ce moment-là? Quand Jésus nous dit « Aime-moi plus que ta fille, que ton fils, aime-moi plus que ta mère ou ton père », c'est pas pour nous priver, c'est pour nous protéger. Et je pense qu'on comprend bien le concept. Le modèle du monde ne fonctionne pas. Depuis le Jardin d'Éden, on s'est fait des feuilles de figues. Hein? On a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et donc, depuis le jardin, j'ai dit, crème, elle est pas grosse la feuille, il y a de quoi la cacher. Non, c'est bizarre. OK. Petite pause mentale ici. Mais depuis le Jardin d'Éden, on veut pas se présenter tel qu'on est devant Dieu. Fait qu'on veut toujours se cacher. Et quand on dit à quelqu'un, hey, t'es spécial, tout de suite, ce qu'ils vont se poser comme question, c'est derrière, c'est qu'est-ce que j'ai fait qui fait que je suis si spécial pour toi? Donc, on est caché derrière nos performances, derrière nos accomplissements, derrière qu'est-ce qu'on peut faire pour. Puis pour le Créateur, c'est la même affaire. On veut pas se présenter à lui les mains nues, puis toutes nues. On veut cacher qui on est et on veut toujours tenter de se présenter avec quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons en ton nom? Fait ça en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait? Jésus dit, retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Il va dire ça dans Matthieu 7 à des gens qui avaient se cachaient derrière les choses qu'ils faisaient, même pour Dieu. Hein? Et donc, on a perdu la notion de valeur intrinsèque, que je vais définir tantôt. On a perdu la notion de la valeur intrinsèque que Dieu nous a donnée. Et le péché est venu nous laisser croire au mensonge qu'on a besoin de nous présenter derrière quelque chose pour être accepté ou acceptable. On va voir la valeur intrinsèque. La réalité est que l'image que Dieu nous a donnée est une valeur intrinsèque. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que ça veut dire? À l'intérieur. En soi-même, en propre, c'est par vertu de création, parce que tu es créé de même, tu as cette valeur-là. On va dire, par exemple, une barre de fer, qu'elle a une valeur intrinsèque, parce qu'il y a du fer dedans. Ben vous, à cause que vous avez l'image de Dieu, vous avez une valeur intrinsèque, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Quand on parle de finances, quand on parle dans les marchés financiers, on va dire que la valeur intrinsèque d'un bâtiment, par exemple, est de 1 million. On va dire que sa valeur intrinsèque, c'est la valeur qu'on pourrait payer après avoir comptabilisé son actif moins son passif. Donc, il y en a qui sont en comptabilité un petit peu ici. Donc, la dette, la valeur moins sa dette, ce qui est dû sur, ça c'est sa valeur intrinsèque et on ne paierait jamais plus haut que ça sur le marché. Maintenant, pour vous, votre valeur, c'est le prix que Dieu était prêt à payer. Ça vient révéler votre valeur intrinsèque. Quel est le prix que Dieu est prêt à payer pour vous? Savoir, ravoir à lui la vie de son Fils Jésus-Christ. Sa mort sur la croix, c'est le paiement pour que vous puissiez retourner à Dieu. Donc, votre valeur moins votre dette, ça, c'est le prix que Dieu est encore capable de payer pour ça. Qu'est-ce que Dieu paye? Dieu paye la valeur de son Fils. C'est votre valeur moins... Ben là, il faut que je le fasse comme ça. Votre valeur... Ben, je pense qu'il est écrit ici. Tiens. Votre valeur moins la dette qu'a encouru vos péchés. égale la valeur qui est prêt à payer, votre valeur intrinsèque. Donc, vous n'avez pas de la valeur parce que Dieu, vous êtes une poubelle, Jésus est venu mourir pour vous, il a vidé la poubelle, il a nettoyé la poubelle, puis il est venu vivre dedans, puis là, ça vous a donné une valeur. Vous n'avez pas une valeur parce que vous avez accepté Christ, mais parce que Dieu était prêt à envoyer Christ pour vous à mourir sur la croix. OK. Donc, avec ce que j'ai dit ce matin, on va prendre la Sainte-Cène tantôt, dans quelques instants, quelques minutes. Et c'est, je trouve que c'est un bon moment, on vient de parler de la croix. Comment est-ce qu'on trouve notre identité? Comme je l'ai dit, on est des êtres qui ont été créés à l'image de la Trinité, donc des êtres de relation. Et c'est dans notre relation avec le Créateur et notre relation avec les autres qu'on va apprendre notre identité. Jésus, lorsqu'il a été identifié par son Père, c'était pas pour lui, mais pour nous. C'était à son baptême. Les cieux se sont ouverts, une forme corporelle semblable à une colombe est descendue sur lui, puis une voix qui s'est faite entendre. Qu'est-ce que cette voix disait? Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Mon affection. Fait qu'ensemble, on l'a. Donc, Jésus, il a entendu une voix, c'est pas pour rassurer Jésus que c'est dit, c'est pour nous rassurer nous. Nous, on connaissait ce gars-là comme le gars de Nazareth. Il n'avait pas encore fait trop de miracles. On l'a pas vu sortir publiquement. Fait que nous, on le connaît comme étant le bien-aimé du Père. OK? On le voit pas comme le créateur du monde, celui que, par qui Dieu a créé toute chose. On le voit pas comme ça. Puis là, on apprend que son Père l'aime, puis son Père tient à ce qu'on sache qu'il l'aime, et en lui, il a mis toute son affection, et il ne dit pas, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, fait que je l'aime. Et ça, c'est le modèle parfait du disciple. C'est celui qui, avant même de commencer son ministère, avant de faire d'une œuvre sur la terre, il reçoit le témoignage de son Père qu'il est aimé à cause de qui il est, et non pas de ce qu'il va faire ou que de ce qu'il a fait. Donc, avant la mission, avant les grands accomplissements, Jésus est aimé parce qu'il est son Fils. OK? Et dans Romains 5, c'est écrit, « Quand on était encore ses ennemis, Christ est mort pour nous. Quand nous, on était ses ennemis, lui mourait pour pardonner nos péchés. » OK? Fait que, il nous a montré son amour parce qu'on n'avait rien fait pour le mériter, puis on avait fait des choses pour le démériter. Puis, il nous a montré son amour que quand on était ses ennemis, Christ est mort pour nous. Donc, Dieu nous aime pas parce qu'on fait, mais parce qu'on est créé à son image. Dans un monde qui est brisé, les relations, c'est les relations qui montrent l'amour inconditionnel qui vont guérir le cœur, les cœurs brisés. Une image, c'est justement une mère, un père avec son enfant qui l'aime simplement parce que c'est son fils, simplement parce que c'est sa fille. Il l'aime. Tu sais, tu vas aller en cours, tu vas voir ça des fois aux nouvelles, là, tu sais, le gars, il a fait vraiment quelque chose, tu sais, tout le monde le renie, mais tu vois, sa mère est là, tu sais, son père est là, tu sais, puis il dit, qu'est-ce que c'est mon fils? Donc, dans un monde brisé, sans une relation avec Dieu et des relations saines avec autrui, on va gâcher les choses. Les tueurs en série, 60% des sociopathes ou psychopathes, il y a des études qui ont été faites qu'ils étaient dépourvus de relations essentielles et ils ont développé sur eux-mêmes et sur le monde une vision corrompue de la valeur d'un humain. Et je trouve que ça va pas bien parce que, je veux dire, présentement, on dit Dieu en sort de nos écoles, tout ça, mais qu'est-ce qu'on donne comme valeur à l'être humain, présentement? C'est un écosystème pour des débiles qui s'en viennent avec un truc puis qui foirent du monde dans une foule. Je veux dire, la valeur de l'homme est à son plus bas, là. Quand tu enlèves le Créateur, tu enlèves aussi la dignité de ce Créateur-là dans l'individu. Mais ces individus-là qui sont psychopathes, ils ont perdu un parent et ils ont été privés d'amour et de soins. On n'est pas en train de dire ici que les gens qui sont psychopathes, pauvres eux autres, tu sais, puis c'est pas de leur faute s'ils ont tué. Là. C'est pas ça que je dis. Mais les études révèlent quand même qu'il y a un écosystème qui a dans notre monde brisé baisser la valeur que ces gens-là avaient de eux-mêmes ou envers les autres. Chez eux, les parents étaient détachés ou absents. la discipline était inconsistante. Quand la mère était douce et que le père était sévère, l'enfant a appris à manipuler la mère pour obtenir ce qu'il voulait et il a appris par le fait même à devenir rebelle envers l'autorité paternelle, donc envers les autorités. C'était des familles où les parents étaient hypocrites, ils maltraitaient leurs enfants en privé, mais sur la place publique, ils montraient qu'ils étaient une famille presque parfaite. Ted Bundy a dit « Je suis le fils de pute le plus froid que vous avez jamais rencontré. J'aime juste tuer, je voulais tuer. » Les traits des psychopathes, je traduis en même temps, c'est leur incapacité à reconnaître que les autres sont dignes de compassion. Les victimes sont déshumanisées. Ils sont réduits à des objets dans la tête du meurtrier. John Gacy dit qu'il est dit de John Gacy qu'il n'a jamais montré un once de remords. Il appelait ses victimes des racailles. Et le Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, a déclaré que lui, il faisait juste le ménage des ordures de la rue. Hein? Je pense que c'était le meurtrier, le tueur de Boston. Lui, il faisait juste du ménage dans les rues. Lui, il nettoyait, là, tu tuait les prostituées, tout ça. Puis, il considérait ça comme des vidanges. Maintenant, je pense pas qu'on ait des psychopathes ou des sociopathes si on a eu un parent absent et tout ça. Mais l'inverse est vrai, c'est qu'ils n'ont pas été choyés, ces gens-là. Oui, vas-y. Ils n'ont pas de valeur. Ils valent pas la peine qu'on reste là pour eux. Puis, les gens n'ont pas de valeur, c'est des vidanges, c'est des... Hein? Ils ont perdu la compassion parce que qu'est-ce qui fait qu'on a un regard de compassion quand quelqu'un, je vais en parler tantôt, je vais finir pas mal avec ça, on n'a pas de compassion quand on voit juste le péché des gens. Mais quand on voit l'image de Dieu dans chaque personne, on va regarder les gens avec plus de compassion. Moi, quand on regarde ma vie, on peut hésiter parfois quand on me regarde à confirmer que je suis créé à l'image de Dieu. Dieu aime. Et ça se montre par le fait qu'il, dans 1 Corinthiens 13, il est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante pas, il s'enfle pas d'orgueil, il fait rien de malhonnête, il cherche point son intérêt, il s'irrite pas, ne comptabilise pas le mal après avoir tout pardonné, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Ça, c'est l'image de l'amour de Dieu qu'on voit dans 1 Corinthiens 13. Sauf que quand on regarde ma vie, est-ce qu'on voit toujours l'image de ce Créateur-là? Dites-le pas, ça va me faire de la peine. Mais je sais que c'est non. C'est pas difficile de voir par les relations brisées. On en a tous des relations brisées dans nos familles, à notre travail, à notre école. C'est pas difficile de voir par les relations brisées le besoin qu'on a de retrouver en nous cette image-là qui a été brisée. Et donc, cette image-là, l'homme est quand même capable des pires choses, comme j'ai bien énuméré avec les tueurs en série. Donc, l'homme, il est précieux d'un côté, mais il est capable de faire les pires affaires inimaginables. Hein? Et donc, ça l'amène à un endroit d'avoir besoin d'être pardonné. Parce que cette image-là nous a amené à cause qu'elle est brisée, à faire des choses qui ne représentent pas du tout la face de notre Père, si on peut dire. Et ça nous mène à un autre point, c'est que chaque personne que je croise qui est humain, c'est quelqu'un pour qui Christ est mort. Dans le verset 14 de 2 Corinthiens 5, ça dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour nous tous, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Dans ce passage-là, même si on est capable des pires choses, je dois apprendre à regarder les gens. Un, ils ont une valeur. Deux, c'est des gens qui peuvent... faut que je m'attende au pire. Je peux avoir le pire qui sort de ces gens-là. Mais trois, ce sont tous des personnes pour qui Christ est mort. Christ n'est pas mort pour les croyants seulement. Sa mort est efficace juste pour les croyants. Mais Christ est mort pour tous. Puis ici, qui sont morts? Qui sont morts? Tous. Pour Dieu, tout le monde est considéré avoir eu une punition juste est complète pour tout ce qu'ils ont fait. Même la femme qui t'a parlé mal quand tu es allé mettre du gaz la semaine passée. Elle est considérée par Dieu comme ayant reçu une rétribution juste et complète. Là. OK? Et donc, même si on est capable des pires choses, que Christ est mort et sa mort sert de paiement pour mes fautes, elle sert de paiement aussi pour Ted Bundy, Hitler et Mère Teresa. Et lorsqu'on regarde les gens, non pas dans leurs fautes ou dans leurs dettes, mais dans leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire leur avoir moins leur dette, c'est leur valeur intrinsèque, c'est ça. On commence à regarder les gens avec compassion au lieu de dire « regarde ce qu'il m'a fait ». On commence à les voir, comme tu disais, Ben, dans ton introduction, en dehors de des fautes qui sont arrivées, ils ont une âme, ils ont une destinée éternelle, et ça vaut très cher. C'est très important. Et on va les regarder avec compassion. Cette semaine, j'étais sur Facebook, puis il y a des blogueurs qui aiment à chialer sur tout. T'sais. Puis eux autres, c'est leur identité, c'est ça. T'sais. Puis la fille, elle chialait ses parkings, puis là, je sais pas si vous l'avez entendu, en tout cas, elle chialait ses parkings famille, puis si t'es un père, puis que t'as un banc d'auto d'un enfant, mais l'enfant est pas dans l'auto, c'est pas pour toi aller parking famille. Puis là, elle s'en va, puis là, elle fait le procès de tous ceux qui prennent les parkings qui appartiennent aux jeunes familles, tu sais. Puis moi, j'ai dit, j'ai écrit, les Québécois, c'est juste des étoiles, étoiles, étoiles. J'ai juste écrit étoiles, chialeux. Puis là, après ça, le post a été effacé comme dans l'heure qui a suivi. Mais tu sais, ça, j'ai repensé, puis j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je dis, les Québécois, c'est juste des chialeux? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Chialer! Merci de me le dire. On est dans un monde brisé. Puis on fait ce qu'on juge dans les autres, hein? Et donc, au lieu de voir les gens dans leurs fautes, là, je pensais à ça, puis je préparais aussi mon message, tout ça, puis je pensais à cette personne-là, justement, comment sa valeur, son besoin d'être pardonné, le besoin de... Hein? Donc, je récapitule, puis on va faire la Sainte-Cène ensuite. Donc, un humain, c'est quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu, qui est capable des pires choses. C'est quelqu'un pour qui Christ est mort et c'est là, ici, que là, l'identité a changé. Ici, tu sais, là, la pancarte, je dis que je l'expliquerai à la fin, c'est que là, il y a une bifurcation qui se fait dans l'identité. Parce que même si une personne a une grande, grande valeur au point que Christ meurt pour elle, paye déjà sa dette, là, Dieu l'attend de l'autre côté puis il dit, t'acceptes-tu que ta dette a été payée? Et c'est là, c'est parce que Christ est mort pour tous les hommes vont pas au ciel, c'est seulement ceux qui disent, OK, je me reconnais comme pécheur, j'ai besoin d'être pardonné, puis j'accepte que tu as payé ma dette. Donc, la Bible a dit, Dieu nous a réconciliés avec lui, mais là, il nous en supplie, c'est à nous d'être réconciliés avec lui. Et ça donne une nouvelle identité. C'est important ici. Ici, on a une identité qui est commune avec tous les humains, mais là, il se passe de quoi de spécial? C'est qu'à la croisée des chemins, il se passe que quand j'accepte d'être pardonné, je reçois une nouvelle identité. Ma dette est payée et je suis appelé fils ou fille de Dieu. Et j'accepte le pardon. C.S. Lewis, je l'ai mis sur Internet, je vais vous le lire. Soyez assurés que ce qui nourrit votre identité ou ce qu'elle exprime n'est pas un mystère pour Dieu. Et un jour, ils ne seront plus un mystère pour vous. En tant que créature bénie et fortunée, vos yeux l'admireront, lui et aucun autre. Tout ce que vous êtes, à l'exception du péché, est destiné, si vous laissez Dieu faire ce qu'il se propose, à la plus haute satisfaction. Tout ce que vous êtes est destiné à la plus haute satisfaction. Si vous laissez Dieu faire ce qu'il se propose. Votre place au ciel semblera faite pour vous et vous seul, car vous avez été fait pour le ciel, pour cette place-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Laissez faire à Dieu ce qu'il se propose. Mais c'est exactement ici que ça se passe. C'est qu'ici, on apprend qu'on est fait à l'image de Dieu, qu'on est capable des pires choses, mais que Christ est mort pour ces choses-là. Et on accepte son pardon. Et là, il se passe quelque chose. C'est que le pardon que Dieu nous donne nous fait marcher dans une nouvelle vie, une vie qui se donne au Créateur pour lui redonner l'image du Fils qui est en lui. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène au dernier point de notre message. C'est qu'une personne, en tant qu'humain, pas eux, mais ceux qui ont choisi d'accepter le pardon de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui poursuit sa ressemblance à Jésus-Christ, à Dieu. Okay? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vous laisse pour vos notes personnelles. Lisez-le à la maison. Réécrivez les versets qui sont donnés dans un message. Réécrivez-les dans un carnet. Relisez-les durant la semaine. Laissez le Saint-Esprit vous faire de vous la ressemblance de lui-même par sa parole. Parce que c'est seulement ce que vous allez avoir intériorisé que vous allez pouvoir verbaliser en tout temps. Si j'étais capable de parler de ton partage sur l'offrande, Ben, puis du denier, c'est parce que j'ai relu le passage, je les ai réécrits à la main. Si je me rappelle ce que tu as parlé la semaine passée, Gilles aussi, puis les messages qui ont été donnés tout au mois de décembre, c'est parce que je suis allé relire mes notes. Et c'est pour ça que j'étais capable d'en parler. Si vous dites, ouais, mais toi, c'est parce que tu parles en avant. Ouais, mais toi, t'es un voisin. Toi, t'es un mari ou un enfant. T'as des gens dans ta famille qui sont rendus à un certain point sur le continuum de la formation de disciples. Et donc, si vous pouvez relire les versets, vous allez laisser la parole de Dieu façonner en vous ça ici, la ressemblance de Dieu. On a été déformés par la chute, par le péché. On a reçu le pardon pour tout ce que notre déformation a fait. Puis on reçoit la parole pour être retransformé à nouveau en l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, où est-ce que vous êtes? Êtes-vous à moins 6 ou à plus 6 sur l'échelle de la formation disciple? Moins 6, j'ai reconnu qu'il y a un être suprême. Moins 5, j'ai été exposé à la bonne nouvelle, j'ai entendu que je suis créé à l'image de Dieu, que je suis capable des pires choses, que Christ est mort pour moi, qu'il y a un problème, je suis capable des pires choses, et que les choses que je voulais pas faire, que j'ai faites, les choses bien que je voulais faire, que j'ai pas faites, c'est un problème. Mais j'ai découvert que Jésus-Christ était mort pour moi, et je décide d'agir quand j'entends parler de cette croix-là, je décide d'agir et je place ma foi en Christ. Le paiement qu'il a fait à la croix, puis le fait qu'il veut me sauver, et là, je nais de nouveau. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Je suis à zéro sur ma formation de disciple. Ça veut juste dire que j'étais en arrière, puis là, je peux commencer à, tranquillement, à refaire l'image, si on peut dire, qui est en moi. Puis là, j'entends que, dans le fond, Jésus veut que je le suive comme un disciple, que j'apprenne, que je lise ma Bible, que j'intériorise la parole pour que la parole puisse être verbalisée par ma vie. Je me joins à une église, je grandis dans ma foi, je réalise que quand je pêche, ça me sépare d'avec Dieu. J'ai besoin de confesser à Dieu, je suis pardonnable parce que j'ai une grande valeur. Quand je pêche, je ne reste pas 3 semaines en tristesse. Pourquoi? Parce que j'ai une valeur. Jésus m'a dit que je pouvais confesser mon péché, me relever, et que ça, le péché, ne m'avait pas donné, baissé ma valeur. Je me relève, je reçois le pardon, je rebondis, j'apprends à connaître mon Dieu, je me relève, je grandis, je suis formé, je communie avec Dieu, j'administre pour Dieu, je réalise que j'ai un ministère, que je suis pas juste égo, c'est pas juste moi, c'est pas juste mon... Jésus m'a pas juste sauvé pour moi, il m'a aussi sauvé parce qu'il veut que je fasse un ministère. Il veut que je donne ma vie pour mes frères. Donc, j'apprends à être délivré de l'égocentrisme. Et j'administre pour Dieu. Puis là, il se passe quelque chose ici. Il y a quelque chose qui se passe comme une nouvelle naissance. Je me reproduis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'en viens ici. Puis je me tiens avec Jean-Claude. Puis Jean-Claude, il commence à être conscient qu'il y a un être suprême. Great. Pas great. Nice. Puis là, tranquillement, par ma vie, il commence à être exposé à la bonne nouvelle. Puis plus qu'on parle, jase, plus qu'il s'aperçoit qu'il y a un problème. Qu'on est capable, oui, on a une grande valeur, on est fait à l'image de Dieu, mais il y a un gros problème, on est capable des pires choses, on a besoin d'être pardonné. Puis là, j'avance avec Jean-Claude, puis tranquillement, lui aussi, je l'aide. Ah, puis là, il a accepté le Seigneur, c'est pas fini, ça fait juste commencer. Puis là, je marche avec Jean-Claude. Jean-Claude, il évalue la décision de lui aussi être un disciple et d'obéir aux paroles que Jésus nous a enseignées. Puis Jean-Claude, il commence à venir à l'église avec moi. Puis là, il réalise qu'il grandit dans la foi. Puis quand il pêche, il sait qu'il peut demander pardon à Dieu, qu'il est pardonnable, qu'il a une grande valeur. Il peut rebondir et marcher avec Dieu. Il veut communier avec Dieu. Il va avoir une relation qui est ininterrompue avec son Créateur. Jean-Claude réalise qu'il n'a pas été sauvé juste pour lui. Fait que là, Jean-Claude, il commence à amener de l'argent, il donne de l'argent à l'Église, il commence à dire, « Hey, j'ai un ministère, moi. » Puis là, tu l'orientes, tu l'aides, tu lui donnes des conseils, tu l'équipes, si tu peux, pour faire le ministère. Puis c'est là que quelque chose de beau se produit. Puis Jean-Claude, il se tient avec Ginette. Ginette, plus qu'elle voit Jean-Claude avancer, plus qu'elle réalise qu'il y a une aide suprême. Puis là, Ginette, je pense que vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. OK, on va remettre ça au Seigneur ensemble. Donc, on va faire la scène ensemble, puis on va mettre le chant « Je suis enfant de Dieu ». Puis quand on va avoir fini de passer les éléments, on va réduire la chanson tout simplement. On va prier, on va remercier le Seigneur pour son sacrifice. Je vais avoir besoin de deux personnes qui vont prier pour la Sainte Cène. Tu vas le faire. Qui d'autre?
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.